Bonsoir à tous et à toutes, et en particulier à nos amis qui sont arrivés de Reggio Emilia pour partager cette soirée avec nous. Comme on voudrait vraiment qu'une partie de cette soirée soit consacrée à un échange, je vais être très bref cette fois-ci.
Buonasera a tutti e a tutti, a tutti e a tutte, pardon, e soprattutto agli amici di Reggio Emilia che sono venuti fin qui a condividere questa serata, e dato che tengo al fatto che si discuta, sarà molto breve.
Le carnage de Gaza est un moment charnière. Il y aura un avant Gaza et un après Gaza.
La carneficina di Gaza rappresenta un momento cerniera. C'è un prima di Gaza e un dopo Gaza.
Mais on ne peut pas le comprendre hors et déconnecté de la politique israélienne de reconquête, de recolonisation entreprise à partir de août 2000.
Ma questo non si può comprendere, questo momento cerniera, non si può comprendere se lo si decontestualizza da quello che è stato il momento in cui è stata rilanciata la ricolonizzazione nell'agosto 2000.
Ce que les gouvernements israéliens ont compris en 2000, c'est que malgré et la volonté évidente de Yasser Arafat et de la direction de l'OLP d'arriver à un compromis historique avec Israël, un compromis difficile, un compromis douloureux, ils n'accepteraient pas d'être des agents israéliens, des gestionnaires de l'occupation israélienne.
Quello che hanno capito i governanti israeliani dopo l'agosto 2000 è che nonostante l'OLP fosse disponibile a dei compromessi anche dolorosi, non era comunque disponibile a diventare un agente di Israele.
Dès lors, Arafat devait être détruit.
Da quel momento Israele non rimaneva che distruggere Arafat.
Il ne répondait pas aux conditions de la Pax israeliana tels que le voulaient les différents gouvernements israéliens sans exception.
Perché non corrispondeva a quello che era l'obiettivo della Pax israeliana portata avanti da qualunque governo israeliano.
Arafat a été détruit. A-t-il été assassiné ou non? Je dirais presque que c'est une question secondaire. Ce qui est important, c'est que la politique israélienne qui visait à mettre fin à tout un chapitre du mouvement national palestinien, cette initiative a réussi du point de vue israélien.
Arafat è stato distrutto e direi che la domanda se è stato assassinato o meno è quasi secondaria. Quello che è importante è che l'obiettivo dei governi israeliani che puntavano a distruggere un capitolo intero della resistenza palestinese, questa operazione è risultata vincente.
Sauf, et ça c'est la grande défaite israélienne, c'est que le chapitre suivant n'a pas été le chapitre qu'Israël voulait.
Salvo che per il dettaglio, e questo rappresenta la grande sconfitta israeliana, che il capitolo successivo non era quello che Israele avrebbe sperato.
Ça a été le chapitre Hamas.
E cioè il capitolo Hamas.
Israël a rêvé de faire remplacer la direction de l'OLP et la direction de Yasser Arafat par des collaborateurs et ils ont eu le Hamas.
Avrebbero sperato di rimpiazzare la direzione di Arafat con la direzione di collaborazionisti e hanno avuto Hamas.
Hamas a été élu à Gaza et en Cisjordanie, et il faut le répéter et le répéter et le répéter, Hamas est la force majoritaire en Cisjordanie aussi, dans les élections municipales, dans les élections nationales.
Hamas è stato detto a Gaza, ma bisogna ripeterlo, ripeterlo e ripeterlo anche in Cisgiordania, è la forza maggioritaria.
Hamas a été élu d'abord parce que la majorité, la grande majorité des Palestiniens étaient fatigués de la mauvaise gestion et de la corruption, mais je dirais d'abord de la mauvaise gestion par le Fatah de l'autorité palestinienne.
Hamas è stato eletto innanzitutto perché i palestinesi sono stanchi, direi più per la cattiva gestione ancora prima che della corruzione.
Mais surtout par l'échec de la politique, pas de la gestion interne, mais de la politique envers Israël, qui avait été celle, le choix, y compris de Yasser Arafat, de l'OLP et du Fatah.
Ma erano anche stanchi della, 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 del fallimento che era risultato della politica scelta anche da Yasser Arafat verso Israele.
La carte, c'est par rapport à une question qui a été posée, la popularité encore très grande du Fatah, du Hamas, est une popularité par défaut. Non pas par choix de Hamas, mais parce qu'il n'y a pas mieux.
Et la grande popularité, questo per rispondere anche a una domanda che è stata posta, di Hamas non è tanto grazie a Hamas, ma magari perché il fatto che non c'è nient'altro.
Qu'en est-il dans cette conjoncture du président Abu Mazen? Qu'en est-il dans cette conjoncture du président de la place?
In questo senso è chiaro il questo rappresentato dalla presidenza di Abu Mazen.
Je dirais que c'est quelque chose d'extraordinaire. La relation que peut entretenir le peuple palestinien avec son président est unique et c'est une façon très palestinienne de vivre, de faire de la politique.
Et dirò qualcosa di straordinario, cioè nel momento della relazione che il popolo palestinese può intrattenere con il suo presidente.
Personne ne croit, il n'a aucune crédibilité politique, il n'a aucune crédibilité comme président et comme quelqu'un qui peut sortir le peuple palestinien de sa crise.
Non ha alcuna crédibilité, nessuno pensa che sia in grado di far uscire il suo popolo dalla crisi.
Mais on le respecte beaucoup.
Ma si rispetta molto.
Il est le président, on le respecte.
Il presidente ed è rispettato e lo si rispetta.
Et ça c'est quelque chose de très profond dans la culture politique palestinienne depuis l'existence de l'OLP.
E questo è una qualcosa di molto profondo, radicato nella cultura politica palestinese dalla creazione dell'OLP.
E un des échecs de la politique israélo-américaine par rapport au mouvement national palestinien et par rapport au peuple palestinien.
E questo è uno dei fallimenti della politica israelo-statunitense nei confronti della direzione palestinese e del popolo palestinese.
Il y a eu, y compris les événements de Gaza qui ont été énormément gonflés, il n'y a pas eu de danger de guerre civile interpalestinienne. Malgré toutes les tentatives, toutes les provocations, malgré des incidents graves récemment, enfin au cours des trois dernières années, mais sur le fond, le peuple palestinien garde comme la prunelle de ses yeux sur son unité.
Et malgrado i fatti di Gaza del 2007 siano stati molto amplificati, in realtà non c'è mai stato un rischio reale di grave di cadere una guerra civile interpalestinese interamente, dichiaratamente, in maniera profonda.
Pourquoi est-ce que le président Abu Mazen ne peut pas jouer un rôle important et neutraliser ce qui est le programme déclaré des Américains et des gouvernements israéliens et ainsi neutraliser le Hamas?
Per quale motivo Abu Mazen non, malgrado i desideri dell'amministrazione statunitense israeliana,
je ne rappelle plus honnêtement, pardon.
pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à neutraliser, à faire de Yasser, de Abu Mazen, quelqu'un qui puisse neutraliser le Hamas?
Per quale motivo l'obiettivo che era quello dell'amministrazione statunitense e del governo israeliano di dare il compito ad Abu Mazen di neutralizzare Hamas non può avere risultati?
Parce que les relations israélo-palestiniennes sont des relations coloniales. Et dans les relations coloniales, on ne peut pas mettre en valeur la puissance coloniale. N'a jamais été capable, dans toutes les histoires coloniales, de mettre en valeur, d'une façon stable, un dirigeant politique. Elle n'est pas capable de payer le prix pour donner une légitimité et une respectabilité à Abu Mazen ou qui que ce soit.
Perché le relazioni israelo-palestinesi sono le relazioni coloniali e nessuna potenza coloniale è mai stata in grado di valorizzare e dare la credibilità necessaria ad una qualunque figura politica del colonizzato.
Abu Mazen è incapable di montrer, di donner l'exemple d'une seule maison, d'un seul avant-poste. Illégal du point de vue même israélien, qui a été déplacé ou démantelé, et qu'il pourrait montrer en disant, vous voyez, ma politique de négociation avec Israël donne des résultats. Il ne peut pas donner comme exemple la libération d'un seul prisonnier politique. Hamas le peut. Dans ces derniers jours, c'est grâce à une action militaire du Hamas que la question des prisonniers, qui n'est pas encore résolue, est sur la table aujourd'hui. Abu Mazen n'est pas capable de donner un exemple d'acquis. Parce qu'un régime... Vas-y, non, pardon.
Abu Mazen non ha la possibilità di dimostrare che di portare come esempio che un solo avamposto illegale anche per Israele sia stato smantellato grazie alla sua azione politica, non può dimostrare che nessun prigioniero politico sia stato liberato grazie alla sua azione politica, cosa che invece al contrario Hamas può fare, nel senso che grazie a un'azione militare di Hamas la questione dei prigionieri politici oggi è sul tavolo, anche se non è totalmente risolta.
Il n'y a jamais eu d'exemple où une puissance coloniale a pu traiter les dirigeants de ses colonisés d'une façon respectueuse et intelligente. C'est contradictoire avec la logique du colonialisme.
Non si è mai dato il caso di una potenza coloniale che abbia potuto, che sia stata in grado di trattare in modo rispettoso i dirigenti dei colonizzati, per questo per il buon motivo che rispettare i dirigenti dei colonizzati è in contraddizione con lo spirito colonialistico in sé.
Soit on cherche des collaborateurs, soit on refuse de parler et de légitimer ceux qui seraient même les plus modérés parmi les nationalistes. Ça, c'est l'histoire du colonialisme anglais, c'est l'histoire du colonialisme français, surtout français, d'ailleurs les Anglais ont été un peu plus malins. Et ce qui fait que lorsqu'il n'y a plus d'autre choix, c'est trop tard.
Et si sceglie di non rispettare, non parlare, si rifiuta di trattare in qualunque modo con i dirigenti nazionalisti anche più moderati, se non quando non c'è assolutamente nessun'altra via alternativa. Questa è la storia di tutti i colonialismi, forse salvo quello britannico che è stato un po' più furbo.
Dans toute l'histoire des relations coloniales, ceux qui se sont trouvés à la place de Mahmoud Abbas ont joué le rôle de clown. Même si c'était des gens extrêmement honnêtes, même si c'était des gens extrêmement dévoués à leur peuple, ils étaient à la place du clown.
Et nella storia delle relazioni colonialistiche, chiunque si sia trovato al posto di Mahmoud Abbas ha sempre giocato il ruolo del clown, anche se questo poteva essere la persona più onesta del mondo, ma ha sempre avuto quel tipo di ruolo.
Arafat ha refusé d'être un clown.
Arafat ha rifiutato di essere un clown.
C'est pour ça qu'il fallait le dégager du terrain.
Per questo si è dovuto in qualche modo toglierlo davanti.
Abu Mazen, tous les 15 jours, va manger les mauvais gâteaux de Madame Olmert.
ogni 15 giorni Abu Mazen si reca a mangiare i cattivi dolci di Madame Olmert.
Il n'est pas capable de donner un bout de papier ou une seule maison qui ont été déplacées malgré le grand effort qu'il doit faire pour manger ses gâteaux.
Non può portare nessun esempio concreto di qualche conquista di una colonia che non c'è, di una casa in una colonia che non c'è più, qualcosa che nonostante gli sforzi che lui fa per andare a mangiarsi dolci che fanno schifo.
Allora, où est-ce qu'on va?
Dove andiamo?
Où est-ce qu'on va en termes de débouché de la crise actuelle?
Dove andiamo nel senso in quale direzione si va per tentare di uscire dalla crisi attuale?
Tout dépendra des choix qui vont être faits à Washington et ils ne sont pas clairs du tout.
E tutto dipende assolutamente dalle scelte che si faranno a Washington e queste non sono assolutamente chiare.
D'un côté, l'équipe Obama a été élue pour mettre fin à la stratégie de guerre globale et permanente. Parce que c'est une politique qui a échoué et qui a coûté très cher aux États-Unis en termes militaires, en termes financiers et en termes de politique internationale.
Da un lato l'amministrazione Obama ha avuto il mandato di fatto di mettere fine alla politica della guerra globale permanente perché questa ha fallito su tutti i fronti da un punto di vista militare, da un punto di vista finanziario, da un punto di vista di costi umani.
Et nous allons sans doute entrer dans une phase de négociation des conflits plutôt qu'une phase de provocation des conflits.
Et siamo entrati sicuramente in una fase di negoziazione dei conflitti in qualche modo e non di provocazione dei conflitti.
Avec un grand problème, c'est qu'au moment où la politique néoconservatrice américaine a été mise en échec et ses acteurs, Dick Cheney par exemple, Bush c'est un clown, sont dégagés de la scène politique, Israël élit pour la première fois, ou pour la seconde fois, le gouvernement le plus néoconservateur qu'on ait jamais eu, avec à sa tête l'idéologue du néoconservatisme.
Con il grande problema che mentre negli Stati Uniti i neoconservatori sono usciti di scena, Dick Cheney e altri, Bush era un clown di fatto. In Israele, al contrario, nello stesso tempo, viene eletto il secondo governo più neoconservatore nella storia del paese.
E dans le cadre de la continuation, de la pérennité, de l'alliance stratégique israélo-américaine, qui reste un horizon indépassable pour de nombreuses années à venir, vont se dessiner, à mon avis, des tensions politiques entre le nouveau gouvernement israélien et la nouvelle administration américaine.
E nel quadro della continuazione delle relazioni di alleanza tra Stati Uniti e Israele, che è un quadro insuperabile per moltissimi anni a venire, a mio parere si stanno prevedo la creazione di tensioni che vi saranno fra Israele e gli Stati Uniti.
Je disais qu'il y a un avant Gaza et après Gaza, même si Gaza fait partie, le massacre de Gaza fait partie d'une politique de reconquête, d'écrasement et de reprise en main de ce qui avait été les acquis palestiniens des 20 dernières années.
Ho detto che appunto i massacri di Gaza fanno parte di un quadro complessivo di riconquista e di in qualche modo di cancellazione delle conquiste che i palestinesi avevano ottenuto negli anni passati.
Parce que derrière ce qui semble être un comportement irrationnel, une folie assassine, comme ces assassins fous qui rentrent dans une école et avec une mitraillette tue une demi-douzaine d'enfants, d'adolescents, il y a une logique derrière derrière cette folie criminelle.
Perché se è vero che sembra essere in atto una follia brutale come quella che può caratterizzare un folle che entra in una scuola con una mitraglietta e mitraglia e uccide alcune decine di bambini o adolescenti, dietro questa logica omicida e folle c'è una logica.
Une logique, je dirais d'ordre stratégique et une logique d'ordre tactique et conjoncturel.
Et questa logica è sicuramente strategica e tattica e congiunturale insieme.
D'un point de vue global stratégique, il s'agit pour le gouvernement israélien, et je cite, de marquer au fer rouge la conscience des Palestiniens. Marquer au fer rouge est ce concept qu'utilisent les militaires et les politiques israéliens pour qu'ils comprennent qui est le boss. Et que malgré... Et que malgré les symboles de souveraineté, y compris à Gaza, on avait l'habitude de dire Gaza c'est l'État palestinien, même à Gaza, où vous avez votre gouvernement, même à Gaza où il n'y a plus de colonies juives et on ne veut pas qu'il y ait de colonies juives, même à Gaza où le gouvernement israélien n'a aucune prétention territoriale, il n'a jamais voulu Gaza. Parce que Gaza, c'est une entité terroriste, je reviendrai tout de suite sur ce mot-là, même à Gaza, Israël doit marquer les consciences pour dire « c'est nous qui décidons ».
A livello strategico, e l'Israele deve soprattutto ha come obiettivo di marcare a fuoco le coscienze, e questo perché i palestinesi devono capire chi è il boss malgrado possano come di immaginare di avere un simbolo di Stato, un desiderio di Stato. E anche a Gaza, dove non c'è, Gaza che non ha mai rappresentato uno degli interessi principali di Israele, dove non ci sono colonie, dove non ci sono coloni, nonostante questo i palestinesi anche a Gaza devono capire chi comanda, e questo è una parte abbiamo capito.
C'est ça, par exemple, toute la tension qu'il y a entre le gouvernement israélien et l'Égypte par rapport à l'ouverture des frontières. Pas la frontière vers Israël, la frontière vers l'Égypte. Enfermer, fermer hermétiquement la bande de Gaza, c'est un choix israélien pour dire c'est nous qui contrôlons et c'est nous qui décidons quand on ouvre, où on ouvre et pour qui on ouvre.
Anche le tensioni che si sono create tra Egitto e Israele riguardo all'apertura e alla chiusura delle frontiere egiziane, ben inteso, non israeliane, derivano dalla decisione israeliana che è quella di imporre la chiusura o l'apertura della frontiera anche egiziana per chiarire chi è che controlla, chi è che decide quando si apre, per chi si apre e quando si apre.
Le deuxième objectif est beaucoup plus conjoncturel et il est lié aux élections américaines.
Il secondo obiettivo è ben più congiunturale ed è legato alle elezioni statunitensi.
Je dirais que le timing est lié aux élections américaines.
Le
timing.
Qu'est-ce que c'est?
Quand?
Hein?
La scelta del momento.
Ah.
La scelta del momento.
In che lingua?
Allora, è un modo internazionale.
No, io ne conosco pas. La scelta del momento è legata evidentemente alle elezioni statunitensi. Chiedo scusa per la défaillance.
Le moment a été choisi où Obama était déjà élu, mais n'était pas encore en place.
Il momento è stato scelto nel momento in cui Obama era il presidente eletto ma non in carica.
Et il était un message, le moment choisi a été un message pour la nouvelle administration.
Et le moment scelto era un message pour la nouvelle administration.
Une nouvelle administration qui inquiète les dirigeants et l'opinion publique israélienne.
La nuova amministrazione che è un motivo di inquietudine per la classe politica e l'opinione pubblica israeliana.
Surtout après 10 ans de symbiose totale entre la Maison Blanche et le gouvernement israélien.
Soprattutto dopo 10 anni di simbiosi totale tra l'amministrazione statunitense e il governo israeliano.
Une symbiose qu'Israël n'a jamais connue dans toute son histoire.
Una simbiosi che non si è mai conosciuta in tutta la storia.
Qui gérait la politique du monde.
10 anni in cui gli Stati Uniti e Israele decidevano tutti insieme, concordavano tutto insieme, non solo la politica medio orientale, dove c'erano dei ristretti gruppi di riflessione strategici, israelo-statunitensi e statunitensi-israeliani, che decidevano di fatto la politica del mondo.
Ça, c'est fini.
Questo è finito.
Les néoconservateurs ont été dégagés de la scène politique américaine et je crois pour longtemps.
E i neoconservatori statunitensi sono stati cacciati dalla scena politica, io penso, per lungo tempo.
Et là, il fallait envoyer un message extrêmement fort à Washington.
E questo era il momento in cui bisognava mandare un messaggio molto forte a Washington.
Et c'est la raison pour laquelle Tzipi Livni, la ministre israélienne des Affaires étrangères, et certainement la moins folle de nos dirigeants politiques, a utilisé à de nombreuses occasions l'image « nous sommes capables d'être fous ».
Ed è per questo che Tzip Livni, che tra i ministri israeliani è la meno irrazionale, ha numerose volte dichiarato che noi, la seguente frase: noi siamo in grado di essere folli.
E l'ha ripetuto a plusieurs fois, y compris lors de sa visita in Europa, a Paris. Nous avons montré au monde que nous pouvons péter les plombs.
E noi abbiamo, l'ha ripetuto moltissime volte anche nella visita a Parigi, in cui dicendo: noi abbiamo mostrato al mondo quello di cui siamo in grado, dove siamo in grado di arrivare.
A savoir, et c'est ça le message à Washington, nous ne savons pas de quoi la politique américaine est faite. Nous sommes préoccupés par le fait que une des premières visites extérieures de Barack Obama sera pour essayer de renouer le dialogue avec l'Iran.
Noi non sappiamo, il messaggio, il fatto è che il messaggio era a Washington: noi non sappiamo cosa sarà la, in cosa consisterà, scusate, la nuova politica statunitense. Siamo molto preoccupati dal fatto che la prima visita, il primo viaggio all'estero di Barack Obama sarà per cercare di rinnovare, di rimettere in piedi il dialogo con l'Iran.
Nous savons qu'il y a des pourparlers en cours entre les États-Unis et la Syrie.
Noi sappiamo che ci sono dei dei momenti, dei negoziati in qualche modo, non è la parola esatta però, con la Siria in corso.
Nous savons même que les Américains sont informés des discussions informelles, mais tout à fait officieuse, avec le Hamas, européenne, avec le Hamas, par le biais de l'ancien ambassadeur en Syrie.
Sappiamo che attraverso l'ex ambasciatore in Siria, francese in Siria, vi sono dei contatti, per quanto ufficiosi ma reali, tra l'Europa e Hamas.
Mais n'oubliez pas une chose.
Ma non dimenticate una cosa.
Nous sommes capables de péter les plombs.
Noi siamo in grado di fare un casino.
Vous ne pouvez pas ignorer ce facteur au Moyen-Orient.
Non potete ignorare questo fattore.
Et donc vous devez le prendre en compte dans votre politique, dans la nouvelle politique américaine, que nous espérons n'ira pas trop loin. Si elle va trop loin, elle sera confrontée à un élément totalement instable et dangereux.
Nella nuova politica statunitense questo fattore deve essere tenuto in conto, perché anche se noi speriamo che la nuova amministrazione non vada troppo oltre, questa deve tenere presente che se va troppo oltre si confronterà con qualcosa di molto pesante.
Alors, je voudrais passer à un autre sujet avant d'ouvrir le débat, très rapidement, c'est la question du droit international et comment Israël, et c'est d'actualité aujourd'hui, comment Israël essaye de contourner cet enjeu.
E vorrei passare brevemente a un altro argomento prima di lasciare la parola al dibattito, che riguarda il diritto internazionale e come che è di grande attualità in questi giorni e come Israele si pone in tutto in questo quadro.
Alors d'une façon générale, il y a un rejet du droit international.
In termini
dans
generali,
le discours officiel, dans le discours israélien officiel, certainement dans l'opinion publique israélienne, le droit international ne nous concerne pas. Nous sommes au-dessus du droit. Par notre histoire, par notre spécificité et surtout parce que nous sommes les victimes.
In generale, in termini generali, il diritto internazionale per Israele non è un problema, nel senso che non, semplicemente lo ignora, non esiste. Gli israeliani pensano che di essere al di sopra del diritto internazionale, soprattutto per la nostra specificità, per la nostra storia e soprattutto perché siamo vittime.
La 4e Convention de Genève, c'est même la Cour suprême qui le répète maintenant depuis 40 ans, la 4e Convention de Genève ne s'applique pas, qui est une convention sur l'occupation, sur les devoirs de la force occupante, la 4e Convention de Genève ne nous concerne pas.
Si ripete da oltre 40 anni la quarta convenzione di Ginevra che riguarda i doveri di una forza occupante non ci riguarda.
Mais on ne peut pas toujours, si on a pu pendant la période Bush assez facilement, on sent que avec la nouvelle congiocture internationale qui semble s'ouvrir, une congiocture qui est faite de plusieurs puissances et donc d'un jeu beaucoup plus subtil entre la Russie, les États-Unis d'Amérique, l'Europe si elle décide un jour d'avoir une politique à elle, l'Inde, la Chine dont on ne sait encore pas grand-chose en termes de politique extérieure au Moyen-Orient, tous ces nouveaux facteurs vont interpeller Israël et l'obligent à être plus subtil dans sa façon, dans la façon d'opérer autour de la question du droit international.
Ma la nuova congiuntura internazionale fatta di parecchie variabili indipendenti di cui non si conosce bene la traiettoria che potranno intraprendere, che va dalla nuova politica, dalla possibile nuova politica degli Stati Uniti, dall'India alla Cina, che non si capisce che tipo di politica può avere all'interno della regione medio, nel quadro della regione medio orientale, questo obbliga Israele ad avere una essere più sottili ancora rispetto al proprio atteggiamento nei riguardi del diritto internazionale.
Et les autorités juridiques israéliennes, en particulier les conseillers militaires des forces d'occupation et les conseillers juridiques des forces d'occupation et les départements de questions juridiques du ministère des Affaires étrangères travaillent maintenant jour et nuit autour de ces questions.
E tutto quello che è le istituzioni giuridiche a livello militare soprattutto lavorano in questo per questo motivo notte e giorno intorno a questo argomento.
Pendant toute la période Bush, j'y reviens, c'était pas important. Puisque Bush avait annulé le droit international et avait donné carte blanche à Israël de faire ce qu'il voulait du point de vue des Américains et du point de vue des Israéliens, de Guantanamo jusqu'à Gaza.
Et durant le période de l'administration de George Walker Bush, non si poneva il problema per il buon motivo che Bush ignorava anche lui il diritto internazionale e quindi era un dare carta bianca a se stesso, agli Stati Uniti stessi e a Israele, da Guantanamo a Gaza.
Au-delà de cela, Israël a accepté une image du monde où le seul facteur international était les États-Unis d'Amérique, ce qui était la conception des néoconservateurs.
Comunque al di là di questo, Israele ha comunque accettato quella che era una visione del mondo in cui l'unico attore reale al mondo a livello politico fossero erano gli Stati Uniti, che è la concezione neoconservatrice statunitense.
Ça c'est fini.
Questo è finito.
C'est fini parce que l'ONU va reprendre de l'importance. D'autres puissances sont déjà actives sur le plan international et on va revenir à un jeu qui n'est plus unilatéral.
Questo è finito per il buon motivo che l'ONU per esempio riprende spazio e importanza, perché nuove potenze si affacciano nel quadro internazionale e quindi rimettono in gioco tutta una serie di fattori.
C'est la raison pour laquelle ceux qui sont dans le travail, dans la tâche et dans le salaire et de travailler sur la question du droit international et des institutions internationales se sont remis au travail après 10 ans de sommeil en Israël.
E per questo che chiunque ha un lavoro che ha a che fare con l'ito internazionale Israele dopo 10 anni di sonno ha ricominciato a lavorare.
E d'abord on travaille sur les mots.
E innanzitutto si lavora sui termini, sulle parole.
Par exemple, Gaza n'est pas un territoire occupé. Gaza est une entité hostile.
Innanzitutto Gaza non è un territorio occupato ma un'entità ostile.
Et tout un système militaro-juridique se met en place par rapport à entité hostile. Parce que par rapport à un territoire occupé, il y a des conventions, il y a des règles. Entité hostile, c'est autre chose, qu'on va définir unilatéralement.
E in questo quadro tutto un apparato militare giuridico si mette in moto perché chiaramente un territorio occupato ha un'occupazione di un territorio, ha comunque delle regole. Un'entità ostile è un'altra cosa.
Les détenus palestiniens qui sont pris à Gaza, qu'Israël ne définit pas comme un territoire occupé, mais comme autre chose, ne sont plus des prisonniers de guerre, y compris ceux qui ne sont plus des détenus politiques. Ils sont, et c'est une nouvelle catégorie qui a été inventée il y a quelques mois, qui a été reprise de Guantanamo, qui est celle de combattants illégaux.
I detenuti che sono delle galere israeliane che provengono da Gaza non sono, sono stati definiti con un nuovo termine che è stato inventato da qualche mese, che è quello di combattenti illegali, che riprende Guantanamo.
E ce qui permet d'échapper au cadre juridique des conventions internationales par rapport à des prisonniers politiques, par rapport à des prisonniers venant de territoires occupés, c'est une nouvelle autre catégorie sui generis.
Cosa che consente di sfuggire a qualsiasi convenzione giuridica internazionale perché è una condizione sui generis.
Je ne pense pas que ce travail sur les mots va avoir beaucoup d'effet au niveau du droit international et au niveau d'une pression de plus en plus grande qui commence à se faire sentir au niveau international.
Penso che questo lavoro sulle parole non avrà grande effetto sul diritto internazionale e soprattutto riguardo al fatto che una pressione reale comincia a farsi sentire a livello internazionale.
L'aggression contre Gaza a provoquer un mouvement de mobilisation et d'opinion et dans le monde arabe et dans le monde occidental littéralement sans précédent depuis 25 ans au moins.
L'aggressione a Gaza ha provocato una mobilitazione generale delle popolazioni nel mondo arabo e comunque e dappertutto senza precedenti da almeno 25 anni.
Dans le monde arabe et dans le monde occidental.
Dal mondo arabo all'Europa.
Alors c'est l'opinion publique. C'est pas les gouvernements, c'est pas les États. Doucement. Un tel mouvement d'opinion ne peut pas ne pas avoir progressivement un impact sur les décisions politiques. Pas tout de suite.
Oh, pardon. Certo, non si tratta dei governi, si tratta delle opinioni pubbliche, ma andiamo piano perché sicuramente questo tipo di pressioni non possono non avere un impatto sui governi dove queste mobilitazioni avvengono.
E le soutien dont Israël a joui, y compris au pire moment de l'attaque contre Gaza, de la communauté internationale dans le sens des États, des États-Unis, mais aussi des États européens, où on n'a rien entendu, si ce n'est parler de disproportion, de réaction disproportionnée, ce soutien ne va pas, ce soutien total et inconditionnel ne va pas continuer pour longtemps. Ça, j'en suis absolument persuadé.
E anche l'incondizionato sostegno che Israele ha potuto avere anche nei momenti peggiori dell'aggressione a Gaza dalla comunità internazionale intesa come Stati Uniti ma anche Stati europei, sono convinto non abbia vita lunga.
Parce que qu'est-ce qu'on dit les millions de manifestants à travers le monde? Qu'est-ce qu'on exprimé dans des manifestations spontanées? Elles ont été très rapides. Les coalitions pour la paix et contre la guerre n'ont même pas eu le temps de se réunir. Quand les gens sont sortis dans la rue, massivement, partout, dans le monde arabe encore plus, dans le monde musulman, jusqu'en Afghanistan, à Kaboul, des manifestations de masse. Qu'est-ce qu'ont exprimé ces millions de manifestants?
Perché al contrario degli stati che si scusate per, traduco un pezzo di frase me l'ho dimenticato di quella precedente, perché al contrario della comunità internazionale degli stati che parlava solo di sproporzione, uso sproporzionato della forza, cosa dicono i milioni di persone che sono scesi in piazza al fianco della popolazione di Gaza, scesi in manifestazioni spontaneamente spontanee che le coalizioni di sostegno al popolo palestinese non hanno il tempo di riunirsi, e questo è stato ovunque per chiamare la manifestazione era già là. E questi milioni di persone da Kabul a Roma, che cosa hanno detto?
Je crois qu'elles ont dit, au-delà de la rage, de la honte, de la colère face à cette brutalité sans précédent, ça ne veut rien dire sans précédent, il y a de la brutalité malheureusement partout, et on ne va pas faire le calcul de combien de morts il y a eu ici et combien il y en a eu là-bas, mais face à un acharnement, je dirais, ce qu'il y avait de peut-être d'unique, c'est cet acharnement extrêmement concentré sur un demi-kilomètre carré quasiment, un kilomètre carré, sur une population dans un des endroits les plus denses de la planète, par une des armées les plus, et une force de feu des plus fortes qu'on ait jamais utilisées, cette disproportion, alors là je parle de disproportion mais pas dans le sens réaction disproportionnée, cette machine de guerre contre véritablement une petite population, un petit lieu avec une population civile, elle a choqué, elle a secoué les gens qui n'étaient pas forcément pro-arabes, pro-palestiniens ou anti-israéliens.
Perché quello che è avvenuto, questo enorme accanimento feroce contro una piccola striscia di terra che è un chilometro quadrato più o meno, in cui c'è una come dire, popolazione civile che viene distrutta, questo accanimento, questa macchina di guerra spaventosa messa in atto, e qui uso io il termine sproporzionato, ma non nel senso di reazione sproporzionata, ma di cose impossibili da comprendere. Questo ha scioccato le popolazioni nel mondo, in tutto il mondo, e questo ha spinto a urlare il proprio disgusto.
Ma je crois qu'au-delà de cela, les millions de personnes qui sont sorties dans la rue, dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud, à l'Ouest comme à l'Est, je dirais que c'était très égoïste. C'était pour leur monde, pour notre monde à nous tous, italiens, israéliens, français, égyptiens, partout à travers le monde. C'est un cri, je dirais presque unanime, global. On ne veut pas que notre monde redevienne, comme il l'avait été à l'époque du fascisme, une jungle. Un monde où le droit n'existe plus, où c'est que la loi du plus fort, et le plus fort peut faire ce qu'il veut.
E ma al di là di tutto questo, io penso che il grido unanime, che era che unanimemente collegava i milioni di persone scese all'est, all'ovest, al sud, al nord, era un grido che diceva noi non vogliamo, non era un forse anche un po' egoisticamente, era per il proprio mondo, per il nostro mondo, che siamo israeliani, italiani, francesi, non è quello il punto. Il punto è di dire no al ritorno di quello che il mondo era al momento della barbarie nazista e fascista, in cui c'era la legge della giungla e in cui la legge del più forte prevaleva a tutti i costi.
Et ça, c'est l'enjeu, et je terminerai là-dessus, qui est posé, pas au gouvernement israélien, au peuple israélien. De quel côté de ce choix existentiel et global on va se situer? Est-ce qu'on veut contribuer à créer un monde et à, je dirais, sauvegarder un monde où il y a encore un minimum de règles, où il y a des Nations Unies qui sont loin d'être parfaites, où il y a un droit international qui est rarement appliqué ou souvent pas appliqué, mais où au moins on est conditionné par une régularisation des relations internationales, ou est-ce qu'on fait le choix de la jungle?
Et questa è la vera posta in gioco che si pone di fronte, il vero dilemma che viene posto, non, direi non solo al governo israeliano, che è quello di dire tu da che parte stai, vuoi dare un contributo a un mondo che abbia un minimo di regole, le Nazioni Unite non sono perfette, il diritto internazionale neanche, ma hanno il ruolo di dare delle regole, oppure vuoi sprofondarci nella giungla?
Je ne suis pas très optimiste quant à la réponse.
Non sono molto ottimista per la risposta.
Dans cette agression contre Gaza, qui était un conflit totalement unilatéral, contrairement à la guerre du Liban, où au moins il y a eu des ripostes, il y a eu des missiles qui venaient du Liban, il y avait un sentiment de inégal, mais de réciprocité, là c'était child molesting, j'ai pas d'autre mot, c'était l'acharnement contre des civils, contre des enfants. La population israélienne a été totalement unie derrière son gouvernement.
Non sono ottimista nella risposta perché durante questo accanimento feroce contro la popolazione civile, contro i bambini, nel momento in cui i bambini venivano massacrati a Gaza, la popolazione civile israeliana, la società civile israeliana era massicciamente, unitamente in accordo col proprio governo.
Alors, on va pas mépriser les quelques milliers de manifestants qui ont manifesté, je dirais presque jour et nuit pendant plusieurs semaines à Tel Aviv, à Haïfa, à Jérusalem, dans des petites villes aussi. Des gens qui ont quelque part voulu sauver leur honneur. Mais ce n'est pas un autre Israël. C'était une exception dans un Israël uni dans la guerre et uni dans la brutalité.
E anche se si corre il rischio di sottovalutare, di disprezzare in qualche modo quelle poche migliaia di israeliani che durante questa aggressione hanno manifestato contro il proprio governo, non, soprattutto per salvaguardare appunto i restiamo umani di Vittorio Arrigoni, e questo non era un altro Israele, non era un'altra voce in Israele.
E per ça aussi en Israël il y a un avant Gaza et un après Gaza.
E per questo in Israele c'è un prima di Gaza e un dopo Gaza.
Est-ce qu'Israël pourra se remettre, Israël, sa société, pourra se remettre de cette déroute, de ce désastre moral et politique? Personne ne peut donner la réponse.
Se Israël pourra risollevarsi da questo disastro politico generale della società israeliana, rispondere a questa domanda nessuno può farlo.
Mais une seule chose que je peux dire avec certitude, s'il y a une chance que ça se passe, qu'il y ait cette reprise en main, ce réveil d'une partie de la société israélienne, cela dépend en grande partie de l'attitude, et cette fois-ci je ne parle pas seulement de la communauté internationale, mais je parle aussi des sociétés à travers le monde dans sa relation par rapport à Israël.
Ma posso dire una cosa con certezza: se ci sarà questo risveglio questo tentativo di salvaguardia dell'umanità, della propria umanità, della società israeliana, ciò dipenderà molto dall'atteggiamento delle società degli altri stati.
Se Israel reste dans ce sentiment d'impunité totale et d'une communauté internationale et d'une opinion publique internationale qui ne lui fait pas payer le prix de sa politique, alors il n'y a aucune chance pour qu'il y ait un réveil en Israël. Si au contraire...
Se Israël continuera ad avere la certezza dell'impunità con una comunità internazionale che per, in quanto stati e in quanto società di opinioni pubbliche degli altri stati non fanno pagare un prezzo a Israele della propria politica aggressiva, allora non, è evidente che la risposta, se c'è un risveglio, una possibilità di uscita dalla barbarie, non c'è.
E sì, all'opposé, on arrive à faire, nous arrivons, cette petite minorité de femmes et d'hommes en Israël qui refusent cette politique de guerre, de colonisation, de déshumanisation, de destruction, de massacre, si nous arrivons à faire passer le message dans la société israélienne qu'une partie de plus en plus grande de la communauté internationale, des opinions internationales, nous mettent dans une situation de paria et nous excluent de la communauté des peuples civilisés, alors nous avons une chance. Et en ce sens-là, une politique de pression, une politique de sanction, une politique qui exige de traduire les dirigeants israéliens devant des cours internationales, des campagnes de BDS, de boycott, de sanctions par rapport à Israël, c'est pas simplement faire justice aux victimes du massacre, c'est aussi aider à ce qu'il y ait peut-être une prise de conscience en Israël. Je vous remercie.
Al contrario, se noi, quelle poche migliaia di uomini e donne israeliani e israeliane che ci opponiamo, rifiutiamo la cultura del massacro, la politica del massacro e la cultura della barbarie, avessimo la possibilità di far passare il messaggio alla nostra opinione pubblica che una gran parte di stati e opinioni pubbliche nel mondo ci mettono in una condizione di pari, escludendoci dalla società delle nazioni civili, allora questo potrebbe darci la possibilità di una marcia indietro. E in questo senso che è necessario far sì che la campagna per il boicottaggio, disinvestimento e sanzioni nei confronti di Israele abbia un grande rilancio. Vi ringrazio. Thank you.